week-end sur RBAFM Auvergne-Limousin.
Sport Nouvelle Génération, c'est parti, la première de 2026. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver, bonne année à tous en ce début d'année 2026, bonne année à Philippe qui sera désormais aux manettes et qui est avec moi déjà ce matin, bonne année aussi à Patricia qui exceptionnellement est avec nous en studio aujourd'hui, et puis bonne année Didier, tu seras mon premier invité, merci d'avoir accepté d'être en studio pour relancer l'heure du sport en direct ce matin. Tu es en plus, un dinosaure de la radio en tant que bénévole, et tu es, tout le monde le sait, notre expert sport mécanique, bien évidemment.
Bonjour à tous, mais je ne sais pas comment il faut que je prenne le terme dinosaure, mais enfin bon, je vais faire avec.
C'est plutôt sympa, ça veut dire
qu'on peut vivre
dans toi et qu'on peut compter sur toi, que tu es fidèle à la radio et fidèle au sport mécanique. Et puis je voudrais avoir aussi une pensée et souhaiter une bonne année à Marie-Pierre qui m'a fait la technique pendant de très très nombreuses années, et en plus dans des circonstances particulières en ce moment, je le tiens à lui dédier cette émission à Marie-Pierre. Allez, on va parler de l'instant échappement dans quelques instants avec Didier qui sera chaque semaine quelques minutes dans l'heure du sport, bien évidemment, autant que possible, hein, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, Didier, pour le retour de l'émission, quasiment un an et demi après la dernière édition, l'instant échappement, c'est jusqu'à 11h avec toi Didier, tout d'abord pour remercier de ta fidélité, je disais, à l'heure du sport, mais aussi pour te remercier pour ta fidélité à la radio, à RBFM, que tu as rejoint quasiment au début de l'aventure de la radio sur bord en 86, quelque chose comme
ça. Voilà, complètement au début, puisqu'à l'époque j'étais élu au conseil municipal du Monteil, et donc c'était un groupe de communes qui lançait la radio, il fallait des représentants, et c'est comme ça que je suis arrivé ici avec des premiers échanges avec Pierre Richardier, qui était le journaliste de l'époque, qui était chargé de lancer l'antenne.
Et un professionnel, lui, déjà.
Qui était un professionnel. Et il a fallu ensuite créer une grille de programme. Et donc, c'est tout naturellement que j'ai proposé des sports mécaniques parce que c'était ma passion. Et c'est comme ça qu'échappement est né dès le départ. Et voilà, donc on a fait des centaines et des centaines d'émissions avant de repartir dans l'heure du sport avec une version allégée, mais qui convient très bien aujourd'hui.
Mis à part ce professionnel, tous les autres étaient des bénévoles des communes adhérentes. Combien de communes d'ailleurs a adhéré au tout début ?
Au début, il devait y avoir entre 25 et 30 communes. C'était toutes les communes du Cap-Bas. C'était en fait un groupement de développement économique sur le canton de Seigne, le canton de Champs et Bord. Donc c'était un groupement économique.
Bord-Artens. Il n'y a pas de Puy de Dôme au départ ?
Il y avait un petit peu du Puy-de-Dôme, je crois, mais qui a évolué après. Et c'est ce groupement-là qui avait fait le constat de la difficulté de communication entre les trois départements précisément, puisqu'il fallait dans ce cas-là acheter trois éditions de la montagne, hein, pour savoir ce qui se passait. Et c'est l'idée de départ, en fait, de la création de la radio, en disant, bon, on va faire quelque chose qui passe par-dessus les frontières, entre guillemets, pour informer tout le monde ce qui se passe sur le bassin de la zone.
Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, hein, 1986,
voilà,
on rappelle les jeunes, voilà, ça n'existait pas.
C'est RBA qui servait de réseau social en fait.
Exactement, et c'est pour ça qu'on reste une radio de proximité. Selon échappement, Didier, ça va nous permettre également de revenir sur ce qu'on a manqué en sport mécanique depuis juin 2024. Presque deux saisons qui se sont passées, on va pas revenir sur toute la saison de 2024, bien évidemment. Ce que j'ai noté moi quand même avant d'arrêter la radio, c'est que en janvier 2024, on a eu la dernière édition du trophée Andros du côté de Superbet. C'était le 27 janvier, c'était la finale. Et ça avait été décidé d'ailleurs, hein, cet arrêt, dès le mois de novembre, un clap de fin le 23 novembre sur La Montagne, justement, dont viennent de parler nos confrères de La Montagne. Clap de fin du trophée Andros. C'est annoncé en novembre, c'était le 27 janvier 2024. Donc novembre 2023, l'annonce, et janvier 2024, l'arrêt pour les raisons de réchauffement climatique. Ils ont bien fait d'arrêter le trophée Andros.
Et alors ils ont, on va pas dire qu'ils ont bien fait parce que c'était vraiment une
environnementalement. Au moins,
alors voilà, la raison est la bonne, hein, bien sûr, parce que tout le monde il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus, notamment sur le fait que les finales aient basculé dans le cadre de la transition énergétique vers des voitures électriques. En fait, c'est pas ça, c'est parce qu'effectivement, il était réellement plus possible de maintenir les pistes dans un état de compétition correct sur Superbest. À une époque, on mettait de l'azote liquide, des pannes Glace, c'était une pratique de fou. Et même sur les stations des Alpes, là, en fait, tout ce qui est en dessous de 1500 mètres, c'est quasiment impossible maintenant de maintenir des conditions normales. Voilà, c'est dommage. Il y a des petites réminiscences en Italie du Nord actuellement. Il y a deux, trois stations de ski qui veulent relancer un petit peu. Donc, ils font quelques petites épreuves. Mais ça n'a pas, bien sûr, le statut et l'aura du Trophée Andros, et qui a été effectivement, côté sport mécanique, la première victime du réchauffement.
Le Trophée Andros qui faisait quelques apparitions aussi en Pyrénées, ou c'était vraiment quelque chose sur la région Aura? Il y a eu quelques manches.
Oui, il y avait sur les Pyrénées, je crois. Il y avait des manches, voilà, notamment à Andorre. Voilà, donc c'était le massif des Pyrénées, puis principalement, donc effectivement, la région Aura avec les Alpes et le massif central, un petit peu les Vosges, Saint-Dié des Vosges, qui avait beaucoup investi sur la préparation de la piste à l'époque. Et ben, ils sont comme les autres aujourd'hui. Ils regardent la pluie tomber et la neige, ça va rester dans les souvenirs.
Aussi, donc c'est vraiment la chose que je retiens moi, de 2024 au niveau du sport mécanique, le Trophée Andros. Et puis je crois qu'il y a eu une belle manche aussi par la course de côte du Mont d'Or en 2024, où il y a eu un gros succès. Si je me souviens bien, on en avait peut-être pas parlé. C'était la plus grande réussite de toutes les courses qu'il y avait eu au Mont d'Or cette année-là, ou pas spécialement?
Oui, ils ont battu des records, effectivement, depuis. Puis ça continue d'ailleurs.
Chaque année maintenant.
L'équipe de Claude Michy qui a pris la course de côte en main maintenant. Donc ils sont très très professionnels, ils enchaînent les succès d'ailleurs, hein. On va en parler par rapport à la MotoGP et au Grand Prix de France de 2025, mais la course de côte du Mont d'Or et restera pour l'instant un must très important, aussi parce qu'elle se déroule pendant l'été, donc ça facilite beaucoup de choses par rapport aux concurrents qui du coup viennent passer quelques jours dans la région. C'est toujours ça de gagner, mais c'est un très beau tracé. Même s'il y a une alternance entre une année en championnat de France et une année en championnat d'Europe. Voilà, parce qu'il y a de la concurrence, mais ça reste une épreuve majeure pour le championnat de France de la montagne.
Du coup, cette année, c'est championnat d'Europe ou c'est championnat de France?
Eh ben, je ne sais pas.
On aura l'occasion.
J'ai pas regardé.
On aura l'occasion d'en parler, parce que la course de côte du Mont d'Or, c'est toujours au mois d'août. Hein, ça,
c'est début août. Le premier week-end d'août, donc il faut garder un petit peu d'informations pour le printemps.
Exactement. Puis on va revenir sur le Dakar de fin 2024 et même de 2025, puisqu'on avait Alex Vinok on va en parler tout à l'heure, hein, de ce qui est en train de se passer, mais qui continue à être sur le Dakar. L'an dernier encore avec Garlin Chicherit, les deux dernières années d'ailleurs, hein, 2024 et 2025, si je me souviens bien aussi.
Oui, il y a eu une tentative aussi avec Romain Dumas déjà, hein, on va le retrouver cette année, mais déjà, malheureusement, ça avait tourné court puisque la voiture avait pris feu. 3 jours ou 4 jours après le départ, je crois. Donc Alex était rentré avec une combinaison bien brûlée dans le dos, mais bon, il s'était extrait de la voiture sans problème. Mais voilà, c'était la première expérience avec Romain et qui avait tourné court. Donc là, en fait, ils ont recommencé là début janvier.
C'était il y a 3 ans avec Romain, hein, si je me souviens bien.
Voilà, ouais, c'est ça.
2023.
Ils ont recommencé cette année. Presque en commençant à zéro, quoi.
On va reparler, bien évidemment, de ce qui se fait en ce moment et ce qui est à venir aussi dans ce long instant échappement. On va revenir donc sur cette saison aussi et sur les champions 2025, puisque toutes les saisons de sport mécanique se terminent. Les saisons de sport mécanique, c'est mars-novembre, pour faire simple, en général.
Donc, en 2025, c'est calé sur l'année civile.
À peu près.
On va dire.
Alors, en MotoGP, qui c'est qui est vainqueur en 2025, en novembre 2025?
En MotoGP, alors, je reprends
mes notes,
parce que j'étais pas parti dans ce ordre-là, mais là, surtout le gros événement de la MotoGP 2025, c'est le Grand Prix de France, au Mans, sur le circuit Bugatti,
et
la victoire de Johann Zarco. Là, c'est un moment énorme pour la moto nationale et internationale, et qui s'est continué, j'allais dire, sur Clermont-Ferrand, donc au mois de décembre dernier, puisque Claude Michy, étant l'organisateur du Grand Prix et étant basé à Clermont-Ferrand,
et Auvergnat,
voilà, donc il a mis en place un événement pour remercier Zarco encore sur Clermont-Ferrand, et avec une petite parade en pleine ville sur la place de Jauze,
avec de motards d'ailleurs, hein, beaucoup de motards,
ben, hein, ça a réuni plus de 2000 motos, hein, donc j'étais moi-même inscrit, et ça a été
en moto, toi, du coup.
Oui, c'est été un moment vraiment.
Avec ta 125 trail ou c'était quoi comme moto toi?
Ben, je roule actuellement en Yamaha 135 JR, donc c'est de la grosse moto. Mais voilà, c'était un moment très convivial. Il faisait pas très chaud, mais 2000 motos dans Clermont pour accompagner Johann Zarco jusqu'à la place Renault où s'est déroulé l'événement. C'était vraiment avec le soutien de Michelin, etc. C'est vraiment un grand moment de moto sur 2025. Grâce à ce Grand Prix de France, parce que c'est historique qu'un Français remporte un Grand Prix de France. C'est vraiment un événement énorme. Alors cela dit, ça n'a pas empêché le déroulement du championnat et le champion 2025, c'est Marc Marquez que l'on connaît, bien entendu. Fabio Quartararo, lui, le premier Français, est 9e. C'est un peu une contre-performance pour lui cette année avec sa Yamaha. Mais bon, voilà, on a eu une très belle bataille toute l'année qui a été assez formidable et qui s'est surtout concrétisée autour du Grand Prix de France d'une manière qui a attiré une attention énorme sur la discipline.
Une petite confidence peut-être plus personnelle, ça va être un scoop peut-être, ton choix ou ta préférence est plutôt sur la moto ou alors sur les voitures, je crois que c'est plutôt les voitures.
Ah,
et quelle voiture
pas...
plutôt rallye, plutôt Formule 1, plutôt
alors,
énergie nouvelle,
voilà,
bien évidemment, parce que
c'est une réponse à tiroir.
Allez,
en termes de loisirs, la moto c'est formidable. Il n'y a pas de problème pour faire quelques road trips, profiter de la nature, c'est vraiment formidable. En compétition, c'est plutôt la voiture, parce qu'à moto, j'ai essayé une fois, mais j'ai eu très peur. Non, c'est pas que c'était pas terrible, c'est que
on se fait plus peur.
De rouler en peloton en moto, c'est quand même un truc de fou, et il faut vraiment être habitué. C'était pas mon cas. J'en suis resté là. Et après, côté automobile, mes goûts sont très éclectiques. Tout ce qui va vite, ça m'intéresse. Après, personnellement, je suis pratiquant de rallye essentiellement.
Énergie nouvelle, du coup.
Et alors maintenant, énergie nouvelle, mais c'est relativement récent dans ma pratique du rallye.
Et t'as fait du rallye thermique pendant combien de temps, du coup?
Ah, ben, j'ai fait du rallye thermique dans les années 80, avec d'ailleurs on avait fait des émissions en direct de la voiture avec la radio. C'était assez sympathique, ça. Je me souviens d'un rallye avant ça, je portais le numéro 95 pour avoir la longueur d'onde de la radio, et avec Frédéric Burke, qui était un des bénévoles de la radio, qui était mon copilote à l'époque. Donc voilà, ça remonte, ça doit être en 82 ou 83, donc ça nous rajeunit pas. Le basculement sur l'énergie nouvelle, c'est 2015.
C'était hier, hein, 82, 83.
C'était hier.
Avant-hier, quoi. Un petit point sur le rallye WRC aussi, 2025, avec là aussi peut-être les vainqueurs.
Ah ben 2025.
T'as pris des notes, hein, je vois. Et c'est rare que tu prennes des notes, hein.
Ah oui, alors.
Là, t'avais un long chaman, t'as dit, allez, là, il faut que je fasse le.
Voilà. On a du pas mal de temps à rattraper, donc il faut structurer un petit peu. Eh ben le WRC, on va dire que le WRC est malade, hein, quand même en ce moment, parce qu'il n'y a pas assez de concurrents. Les constructeurs sont un peu en bascule entre justement tous les règlements qui évoluent techniquement. On a eu un règlement récemment, donc avec des voiture hybride. Maintenant, on est revenu à du 100% thermique, mais pour préparer en fait le basculement vers les énergies nouvelles aussi. Donc, ça demande au niveau des règlements beaucoup de modifications. Les constructeurs, eux, demandent des stabilités du règlement, bien entendu, par rapport aux investissements. Donc, tout ça est compliqué à faire avancer à la fois. Pas assez de concurrence sans doute, toujours des bagarres entre Hyundai, Ford et Toyota. Et cette année encore, on a eu un petit peu la surprise de voir le retour de Sébastien Ogier, qui a décroché son 9e titre de champion du monde. Donc il égalise le score de Sébastien Loeb, peut-être parce qu'il avait envie quelque part pour un problème d'ego, mais effectivement ils sont maintenant au coude à coude tous les deux avec 9 titres tous les deux.
Je sais pas trop si en 2026, les deux vont pas revenir un petit peu pour essayer d'avoir un 10e titre, hein.
Je pense que Seb Ogier est plus facilement que Sébastien Loeb, mais voilà, quand on a l'esprit de compétition dans le sang, c'est vrai que tous ces genres de situations, ça vous gratte, hein, et voilà, et quand on enfile le casque, il y a les abeilles dedans et on roule. Donc voilà, on va voir, hein, ça va peut-être dépendre de savoir quel sera le résultat final du Dakar pour Sébastien Loeb, bon, ce qui va conditionner sa saison 2026 sans doute. Mais Sébastien Ogier, lui, va fêté son deuxième titre, donc après le Monte Carlo, donc à la fin de ce mois de janvier, à Gap, c'est sa ville d'origine. Ils vont faire une grosse fête, comme d'ailleurs Sébastien Loeb l'avait fait à Haguenau en Alsace à l'époque. Ils vont faire une grosse fête pour fêter ce deuxième titre. Et là, on va commencer à y voir plus clair par rapport aux engagements des constructeurs également et de Toyota sans doute sur la saison 2026.
Ok, on a commencé à parler de 2026, mais on reviendra quand même parce qu'il faut parler de Formule 1 également sur le passé. Mais maintenant, il n'y aura plus d'infos pour nous couper. On aura juste des pauses musicales. Il y aura 3 pauses musicales, une aux alentours de 10h30, une à 10h30 et une à 10h45. On a déjà dépassé, mais ça, on a l'habitude sur l'heure du sport. On va commencer par faire la première pause musicale. On se retrouvera Didier, pour faire un retour sur la Formule 1 2025. Et ensuite, on parle de tout ce qui se passe en ce moment et ce qui va se passer encore en 2026, si tu veux bien.
Bien volontiers.
Allez, on part avec les avions. C'est parti, Nuit Sauvage. Allez, l'heure du sport, ça revient pour la deuxième partie. Il y aura 3 parties, donc maintenant, vous l'avez compris, avec Didier qui nous fait un long instant échappement. D'habitude, c'est un instant court, là, ce sera un instant long jusqu'à 11h. Tout d'abord, pour faire un retour depuis juin 2024, et on en est à la saison 2025. On fait un peu le bilan avec donc Marquez qui est vainqueur en MotoGP pour cette saison 2025. En rallye WRC, c'était qui donc Sébastien Ogier. Oui, effectivement, qui n'a pas fait d'ailleurs tous les rallyes, hein, il en a fait quand combien.
Non, il n'était pas parti pour faire toute la saison. Et puis les résultats ont fait que il a pris des points et il est devenu possible de faire un résultat. Et donc il a accéléré en fin de saison et il a décroché le titre.
Voilà. Et donc en Formule 1, maintenant il ne nous reste plus que ça. Le vainqueur Formule 1, donc 2025.
Alors, le vainqueur Formule 1 2025 est et sera, comme disent les gens du comité Miss France, en fait, c'est Lando Norris de chez McLaren, donc les fameuses voitures orange qui nous ont fait une bagarre pendant toute la saison, une bagarre fratricide, on dirait, donc avec Lando Norris d'un côté, Oscar Piastri de l'autre côté. On s'est dit, ils vont nous pourrir toute la saison ou ils vont tout perdre, et ça a failli plusieurs fois parce qu'il y a eu des accrochages, et donc ça a été très mouvementé, un petit peu brouillon. Et puis ils ont quand même fini par rester devant et les voitures ont tenu le coup. Mais par contre, en force de se bagarrer, ils ont fait le lead Max Verstappen qui derrière lui était mal
champion titre, hein, champion titre,
champion en titre, mais dont la Red Bull fonctionnait pas bien cette année. Mais du coup, en profitant de la lutte entre les deux oranges, a joué sa carte à lui et est revenu semer le trouble et a fini sur le podium d'une manière un petit peu imprévu aussi, mais vraiment ça a été un peu la loterie cette fin de saison.
Ça a été bien parce que ça a mis un peu de suspense. Ça fait longtemps qu'on n'a plus autant de suspense. Ça s'est joué qu'au dernier Grand Prix, il faut le dire.
Complètement. Ça, jusqu'au bout, il y a eu du risque, il y a eu des mouvements. Et puis on se disait, mais ces deux jeunes McLaren, là, pilotes de McLaren, ils vont nous en faire une. Ils vont finir au tas tous les deux avant la fin. Et puis bon, ils ont tenu quand même le coup, mais on sentait que du côté du management d'équipe, ça devait être chaud parce qu'ils avaient tous les deux un gros tempérament. Et voilà, ils ont vraiment joué avec le feu toute la saison.
Donc Lando Norris premier, deuxième
Max Verstappen. Et troisième Oscar Piastri. Donc les deux McLaren sur le podium, c'est très bien. Au niveau du constructeur, ils sont contents en termes de points, etc. Mais ils ont failli quand même tout perdre à plusieurs reprises. Donc là, ça a été chaud patate toute la saison.
Et donc champion des constructeurs aussi, bien évidemment, McLaren.
Voilà, c'est ça. Après, on peut peut-être dire un petit mot pas favorable pour Alpine, la marque française, avec toujours Pierre Gasly qui a essayé de se retrousser les manches et de faire ce qu'il pouvait aussi. Malheureusement, ça fonctionne pas. Et on sait pas bien où va Alpine, puisque ils ont abandonné le moteur Renault, donc c'est décidé. Il y a un moteur Mercedes qui va arriver. Et puis, il y a encore un tout nouveau changement du côté du management de l'équipe, avec l'arrivée de Christian Horner, qui était le manager de Red Bull, qui s'est fait mettre à la porte de chez Red Bull et qui va arriver chez Alpine en ayant investi de l'argent, sonnant et trébuchant. Il a pris des parts autour de 20%, je crois, du capital d'Alpine, et il va revenir donc à la direction de la marque, avec donc sans doute notre ami l'ex-Benetton Flavio Briatore, qui va être obligé de prendre un peu de recul.
Le jeune Flavio Briatore,
voilà, qui est aussi jeune, il a dû faire de la radio très tôt lui aussi. Et donc il va être un peu en retrait, mais l'arrivée de Christian Horner chez Alpine, ça va forcément faire des vagues, on espère positives. Mais ça va être une grosse révolution pour la marque pour 2026. Et alléluia, si les résultats arrivent, et on sera les premiers à applaudir, bien entendu.
La transition est faite entre le passé et l'avenir. L'avenir de la Formule 1 avec des mouvements aussi, justement, au-delà des dirigeants, des pilotes déjà qui ont changé d'écurie.
Alors, oui, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de noms sur Lewis Hamilton chez Ferrari. Et il va sans doute pas rester.
Quel âge il a, Lewis Hamilton, parce que c'est le plus vieux du paddock là maintenant.
Il faisait de la radio il y a 40 ans.
Je crois que je l'ai vexé.
On a débuté ensemble à l'époque. Et ça bouge. Que va faire Alonso également, qui est encore plus âgé que nous.
Et que Lewis Hamilton.
Voilà, qui est le senior du peloton. Ça bouge beaucoup. Sébastien Vettel qui a décidé de complètement arrêter. Il avait rebougé un petit peu là pour faire parler de lui. Et en fait, il dit bon, allez, c'est trop tard, c'est pas la peine. Donc, on va peut-être retrouver tous ces garçons en endurance, hein. Donc, ce serait assez sympa. Et puis du côté des plus jeunes, on va arriver. Bon, on va voir ce que va faire Isaac Hadjar. Hein. L'étoile montante française, c'est lui. Qu'est-ce que
tout
ça
jeune,
va donner?
Tout jeune, lui, par contre.
Alors là, il est tout jeune pour une fois. Et il est donc chez Red Bull maintenant, là, avec Verstappen. Donc, comment ça va se passer dans le relationnel entre eux? Voilà, énorme question. Va-t-il résister à la pression et continuer à progresser? On le souhaite, bien entendu, mais c'est la première grosse question 2026, c'est comment on va faire Adjar sur cette saison.
Et la question aussi, c'est Lando Norris, du coup, qui était chez McLaren, qu'est-ce qu'il va devenir, lui? Parce qu'il est quand même champion du monde en titre, pour le coup.
Voilà, donc il va bien trouver une petite place
au soleil. Oui, une place au soleil, comme on dit. Voilà. Et puis l'actualité, bien évidemment, c'est le Rallye Raid, le Paris-Dakar, le Dakar même, c'est plus le Paris-Dakar, c'est le Dakar tout simple, qui est en Arabie Saoudite depuis plusieurs années, et c'est en cours, bien évidemment, Didier, c'est parti, il y a tout pile une semaine, avec une nouvelle participation, notamment de Alex Vinok, on en a parlé tout à l'heure, sur Ford, et avec Romain Dumas et une voiture qui est la 236 au niveau des plaques.
Voilà, c'est le Dossard 236. Ça vous permet de suivre éventuellement les résultats sur l'application de Dakar Rally qui vous permet de suivre en live les épreuves, hein, chaque journée, le classement de l'étape, le classement général. Donc c'est très intéressant à suivre. Et bien oui, c'est donc, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la deuxième participation d'Alex avec Romain Dumas, une première qui avait échoué. Là, ça a l'air de bien fonctionner malgré le fait qu'il roule avec un Ford Raptor de l'an dernier. Donc c'est pas bien sûr les voitures de pointe de cette année dont dispose Carlos Sainz, dont dispose Estrom, tous ceux qui sont en tête en fait là. Il y a une grosse équipe Ford et puis il y a les modèles de l'an dernier et dont celui de Romain Dumas. Alors cela dit, ils arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu, même si au général c'est moins bien aujourd'hui au moment où on parle. Ils ont fait quand même avant-hier une très très belle perf en tapant une 12e place au général de l'étape. Une 12e place juste derrière Sébastien Loeb et devant Gutiérrez, donc qui était la deuxième Dacia. Donc ils ont très très bien roulé avec ce Ford Raptor. Mais voilà, il y a eu des crevaisons et le côté aléatoire du classement. Tous les pilotes, même les pilotes en vue, que ce soit Loeb, que ce soit... Il y a Guerra Latia qui crève pas, on sait plus pourquoi, il doit avoir des pneus en bois, je sais pas.
C'est peut-être celui qui connaît le plus mieux le terrain de notre côté.
C'est
hein,
lui qui connaît tous les cailloux du désert,
voilà, mais quand même,
il arrive à faire ce que les autres ne font pas. C'est-à-dire de rouler très vite dans le caillou et de pas crever. Voilà, les autres, soit ils roulent vite et ils crèvent, soit il faut qu'ils roulent moins vite et ils sont derrière. C'est un peu l'alternance que fait Sébastien Loeb actuellement.
C'est ce que j'allais dire, exactement. C'est au grand regret de Sébastien Loeb qui dit souvent « Je suis un peu frustré sur le Dakar parce que moi j'aime bien rouler toujours très vite ».
Et voilà. Donc hier, il y a eu cette fameuse étape marathon où il y avait une journée quasiment de sable. Donc là, ils ont performé. D'ailleurs, ils ont fait 1 et 2 avec Nasser sur le classement. Donc là, ça allait bien. Voilà. Mais c'est vrai que les cailloux, Sébastien ne sait pas rouler doucement dans les cailloux. Voilà, c'est contraire à ses pratiques, on va dire. Et effectivement, il multiplie les crevaisons.
Avant de refaire une deuxième pause, Didier, je voudrais revenir sur Alex Vinok, qui j'ai lu son petit papier sur la montagne. Il dit voilà, moi ce que j'aime, c'est l'aventure, c'est recoucher dans la tente, sans équipe, tout seul, sans assistance. Alors que pendant un temps, là, ces 3-4 dernières années, il y avait une grosse assistance, mais évidemment, il était dans des grosses écuries. Là, avec Romain Dumas, il retrouve un peu le sens du Paris-Dakar des années 80-90, quoi.
Voilà, ils sont revenus vers l'esprit du rallye raid de départ. C'est vrai qu'aujourd'hui, et même en Arabie Saoudite, justement, les spéciales font des boucles. Et donc, souvent, ils rentrent au bivouac le soir, toujours au même endroit. Donc, il y a effectivement des concurrents qui sont installés là avec des motorhomes comme en Formule 1. Hein. Mais voilà, il y a moyen de continuer à garder l'esprit de départ, l'esprit du quad, l'esprit de la moto, où effectivement, on était avec la guitoune, la tente, l'assistance. Et voilà, c'était effectivement davantage l'aventure qu'aujourd'hui.
Allez, il reste un quart d'heure. On reparle de tout ce qui va se passer en 2026, juste après une nouvelle pause musicale. C'est tout de suite, c'est Eddie de Préto, Bateau Mouche.
RBAFM, Auvergne, Limousin.
Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche, avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances, de sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif. En triplet dessert, je reculais l'attente. Des gros ventres à remplir avec chansons badantes. Sur mon estrade en top que je prenais pour scène. Je me sentais comme un coq, mais je flottais que sur la scène. Maquillé au pinceau, un solo pour mariage, avec costume Célio et l'odeur du fromage. Je posais comme il faut, les gens menaient pas. large. Je me sentais parfois trop entre rêve et noyade. J'étais lui qu'on ne voit pas, qui se glisse entre les tables. J'entends du Rihanna avec un accent grave, qui sourit à chaque fois pour faire plaisir mesdames. Faudrait pas que messieurs se sentent dragués par moi. Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idoles, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, 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 beau, début, début, début. Je découvrais Paris,
comme découvre l'étranger.
Tu viens d'où il fait gris,
où on laisse tout trop laid.
Les monuments crariés,
emportés comme jamais.
Je n'avais qu'une envie,
m'installer sur ce pavé,
à chanter toute ma vie.
Pas les chansons des autres,
j'en avais dans le vent.
Pas du saumon le nôtre,
j'attendais patiemment.
Monter sur le trône,
qu'on reprenne mes chansons.
Quand je reprends vie en rose.
Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, début, début. Je devais quitter mes Nike et laisser sous le bateau. C'était pas assez classe pour l'image de ce show. Je n'avais qu'une hâte pour montrer ce que je vaux, montrer combien je fake et jante le manalo. Le soir je m'improvisais la vedette du bateau, en maquillant mes souhaits au parfum du ghetto. Tous les soirs je trinquais, rêve fou de mon ego. En attendant je réglais mes grands rêves au chapeau. Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, début, début. Beau, début, début, début. Beau, début, début, début. Beau, début, début, début. Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche, avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances, le sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif.
Et là ça évolue là.
Allez, il nous reste 10 minutes pour cette première heure du sport 2026, nouvelle génération, on va dire ça comme ça. On va parler bien évidemment dans quelques instants de tout ce qu'il y a à venir. Avant cela, je voulais vous donner quand même quelques infos un petit peu tout azimut du sport. Sachez qu'en ce moment même est partie la 22e édition de la Grande Odyssée. C'est une course avec chien de traîneau du côté des Alpes et c'est jusqu'au 22 janvier. Sachez également que ce soir, du côté de Chappes, au nord de Clermont, il y a la course des rois. C'est un petit 5 km ben, pour tout faire le bien après les fêtes. Et puis le week-end, demain, il y a également le trail hivernal du Sancy du côté du Morandor avec un 33 km. Le 17 janvier, il y aura une course du côté de Plaza à l'entrée de Clermont-Ferrand, le trail des Lions. Et puis un tournoi de fléchettes aussi, à ne pas manquer, le 31 janvier. Prochain ouvert à tous, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Et puis d'autres rendez-vous, je voulais vous donner trois courses. Le 7 février, ce sera du côté du Raid des Gabariers à Chalvignac avec un 15, un 26 et un 40 km. Le 14 février, le kilomètre du souffle, 10 km du souffle à Rionnes-Montagne au profit de la clinique du souffle avec notamment un 2 fois 5 km. Et puis le 15 février, il y aura une rando, la rando hivernale de Mauriac avec Mauriac Rando Aventure, participation 8 €, les départs comme on veut entre 8h30 et 10h le dimanche 15 février. Et puis enfin le 21 février, c'est un rendez-vous du côté de Conda avec le trail hivernal du Haut-Cantal. Là aussi on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Allez, on retrouve les sports mécaniques avec l'instant chaman pour terminer. Didier, il nous reste moins de 10 minutes pour parler de ce qui se passe en ce moment et puis surtout des dates à venir. Alors en ce moment on a dit le Dakar. Et Et puis ensuite, il va y avoir le début de saison qui va rattaquer en mars pour le GP, le WRC, la Formule 1. Et puis, il va y avoir Lazare Verne également qui va venir avec normalement, la rallye de la Gentiane. Et puis, plein de choses. Dis-nous tout, Didier, dans l'ordre. On va essayer de faire dans l'ordre chronologique.
Voilà, parce que pour l'instant, c'est un petit peu, c'est pas trop l'ordre. Mais bon, la prochaine date vraiment importante, après, quand le Dakar sera terminé, bien entendu, c'est le 27-28 janvier, c'est le rallye de Monte Carlo. C'est l'épreuve d'ouverture du championnat WRC 2026. Voilà, donc là, on l'a évoqué tout à l'heure, on y verra un petit peu plus clair sur les forces en présence.
Et peut-être Sébastien Ogier, du coup. Là.
Alors, oui, voilà, bien sûr. Et qui va faire quoi sur cette saison? Parce que, on l'a précisé, les constructeurs se posent beaucoup de questions. On ne sait pas bien si Hyundai va continuer. Voilà, c'est un peu compliqué chez Ford également. Parce qu'il y a ces changements de règlement qui perturbent beaucoup, bien sûr, les prévisions des équipes qui sont sur le marché. Mais bon, c'est quand même l'ouverture du championnat, du WRC, donc ça va être très fort. C'est donc fin janvier dans les Alpes, donc autour de Gap et autour, bien sûr, de Monaco.
Ok, après donc le début du GP de Formule 1, c'est mars.
Alors oui, je l'avais noté en Formule 1, donc le premier Grand Prix de Formule 1, c'est début mars.
8 mars, hein, 8 mars,
c'est ça. À Melbourne, donc en Australie.
Ok, et GP du coup?
Alors la MotoGP, le premier GP, ça sera la Thaïlande, le 1er mars également.
Ok, 1er mars, donc juste le week-end d'avant de la Formule 1. Et ensuite le rallye de l'Agence Anne, c'est toujours autour du mois de mai
Voilà, fin avril, début mai, selon le calendrier.
Hein, avec l'an dernier, je crois, un nombre de participants quasi record, et notamment des voitures classiques, hein, du rallye classique, et peut-être des énergies nouvelles.
Alors, il y avait, à ma connaissance, parce que j'étais pas présent, pas de concurrent d'énergie nouvelle.
C'est des classiques,
des
plutôt.
Des classiques, oui, en VH, donc en véhicule historique, en VHRS, donc le véhicule historique de régularité sportive, où il y avait effectivement quelques concurrents, dont le maire de Massiac, notre ami Didier Achalbe, qui roulait avec son fils, et qui, du coup...
Avec quelle voiture, du coup?
Avec une Autobianchi Abarth, si mes souvenirs sont bons, qui est c'est un peu sentimental aussi, c'est avec cette voiture que j'ai démarré, moi, et qui est
comme la CG.
Comme la CG, et qui est très investi, Didier Achalbe, donc le maire de Massiac, qui est vice-président du Conseil Général Cantal, sur l'épreuve dont on parlera en mois de septembre, qui est la finale des courses de côte, championnat de France de la montagne.
On en parle tout de suite, vas-y Didier, du coup. Donc voilà. Ça, c'est le mois de septembre, c'est quelle est la date?
Alors, ce mois de septembre, la date, je l'ai quelque part, c'est le 29 septembre. Voilà, avec une organisation de Lazare Verne. Et donc, c'est
l'association riomoise chère à Michel Desmarie.
Voilà, et qui va reprendre, si mes infos sont bonnes, le tracé historique de la course de côte de Massiac, qui a eu lieu après l'arrêt de la course de côte du Luron. L'épreuve avait été transférée à Massiac, et c'est sur cet ancien tracé que cette finale va se dérouler.
Ok, et puis j'ai oublié de parler, mais aussi à venir, hein, il y a les JO bien évidemment d'hiver qui vont se passer du côté de l'Italie, là c'est dans moins d'un mois maintenant, et puis pour revenir au rallye, et il y a aussi quelque chose que tu es en train de mettre en place et d'organiser, ce sera le premier rallye énergie nouvelle en France, et ça se passera dans la région Aura, et c'est plutôt dans le mois de juin ça, Didier?
Alors c'est du 19 au 21 juin. C'est pas le premier rallye énergie nouvelle en France, mais c'est la manche française du championnat du monde des FIA, auquel on participe perso depuis une dizaine d'années. Cette manche française, en fait, n'a jamais existé, parce que c'est le e-rallye Monte Carlo qui tenait lieu de manche française en partant d'une ville française chaque année. Une année c'était Clermont, une année c'était Valence ou Versailles, etc. Et depuis deux ans, l'Automobile Club de Monaco a recentré son épreuve, le fonctionnement sur la principauté, c'est-à-dire qu'on y était au mois d'octobre, on part, on fait des journées avec des boucles Monaco-Monaco.
Donc ça ne peut pas être une étape française, c'est ça? C'est que c'est une étape spéciale principauté, du coup?
Alors, voilà, c'est une épreuve monégasque à 100%.
À 100%, oui, d'accord.
Même si à 98%, elle se déroule sur le territoire français, bien entendu.
Et parce que Monaco, c'est quand même tout petit.
C'est un peu petit, puis c'est un peu encombré.
Récemment encombré. Il y a eu beaucoup de monde en espace réduit.
Beaucoup en France, un petit peu en Italie maintenant, puisqu'il y a eu des jumelages entre Monaco et des villes italiennes. Donc là, on a franchi cette année le col de Tende dans des conditions assez dantesques pour aller rouler en Italie. Mais bon, donc du coup, dans le calendrier, il y a l'épreuve monégasque. Il va y avoir maintenant l'épreuve française, et qui est est légitime à exister, parce que notamment à Monaco, il y a 80% de l'effectif qui sont des voitures françaises, et aussi parce que la discipline se mondialise. C'est-à-dire qu'on a une épreuve en Chine maintenant, et on a le Brésil et l'Argentine qui frappent à la porte. Donc la mondialisation du marché de la voiture électrique fait que la base sportive se mondialise aussi, puisqu'elle sert de promotion, bien sûr, et notamment pour les constructeurs chinois qui ont des noms de marques à coucher dehors et qui se servent du sport pour faire connaître leur marque.
Leur marque. Et combien d'épreuves du coup sur championnat du monde, dont la manche française, ça fait combien d'épreuves au total?
Voilà, là on oscille entre 8 et 10 épreuves. Ça dépend des années, parce qu'il y a des pays qui se lancent et qui tiennent plus ou moins. On a eu par exemple, c'est de la géopolitique, on a eu par exemple la première épreuve qui était devenue l'ouverture annuelle avec, on y allait avec beaucoup de plaisir, en Suède, qui a été supprimée l'an dernier, parce que les Suédois, par rapport au conflit ukrainien, ils sont sur la Finlande, la Suède, là-haut, sur la Norvège, ils sont très très à cran là-dessus, et ils ont refusé un certain nombre de concurrents qui venaient des pays de l'Est, et notamment un concurrent qui avait une licence russe, et donc la FIA les a sortis du calendrier à cause de cette position politique qui avait été prise par les organisateurs. Donc c'est un peu mouvant, mais on a vu arriver l'Écosse, alors qu'il n'y avait aucune épreuve en Angleterre. Donc ça bouge
Royaume-Uni,
beaucoup.
Ouais.
Et surtout, il y a l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, le Canada, donc, et aussi, qui reviennent. Donc la mondialisation continue, et c'est vraiment très sympathique à suivre. Donc la manche française doit prendre sa place, bien entendu.
Alors c'est à partir d'où jusqu'à où, et c'est quand exactement les dates? Et il nous reste deux minutes.
Les dates, c'est du 19 juin au 21 juin. Donc le départ 19 juin d'Aix-les-Bains, en Savoie. Et on traverse toute la région Auvergne-Rhône-Alpes d'Est en ouest, en passant par Valence et Le Puy, pour arriver à Clermont-Ferrand le 20 au soir.
Donc Aix-les-Bains, Clermont-Ferrand, c'est
via la vallée du Rhône, voilà. Et une dernière journée, donc le 21 à Clermont, le dimanche, où on va sans doute passer autour de Charade. Il y a quelque chose à voir de ce côté-là. On est en train de travailler dessus. Et pour institutionnaliser cette date, on a fait un premier test au mois de septembre dernier, qui s'est bien déroulé avec peu de voitures, mais pour roder le parcours,
ouais, bien sûr.
Le roadbook, le chronométrage, etc. Et on a eu le plaisir d'accueillir parmi les concurrents Bruno Sabi, donc champion du monde de rallye raid.
Dinosaure des rallye raid.
Dinosaure, 76 ans Bruno, et il est actuellement en train de disputer le Dakar à 76 ans, et c'est pas le plus âgé, puisqu'il y a Jean-Pierre Struot qui a 80 ans, donc il y a les papis flingueurs sur le Dakar qui sont vraiment en forme, et c'est justement Bruno Sabi qui venait tester une nouvelle lancée électrique qui a remporté cette première édition du e-rally Aura, donc on était ravis de partager ce moment avec lui.
Ok, on va avoir un top horaire dans moins d'une minute. Merci Didier, on a à peu près tout dit. Vas-y, dis-moi dernier mot.
Aquaterra pour le 14 juillet prochain. Alors avec beaucoup de modifications.
Le 13 juillet, je crois que c'est lundi. Hein,
on bouge les dates pour s'adapter au passage du Tour de France, bien entendu. Ça avait été anticipé, ça va bien se passer. On va arriver à tout gérer en même temps. Mais voilà, c'est un Aquaterra qui poursuit son développement, notamment côté swimrun, puisque cette année, donc c'est une épreuve du championnat de France de swimrun, donc ça prend du poids, de la valeur, de la visibilité, de la notoriété en massif central, donc c'est assez formidable.
Ok, et on rappelle cette date de l'Aquaterra, comme quoi entre sport mécanique et tous les autres sports, il y a un pack, un pont que l'on franchit assez aisément. Merci d'avoir été mon premier invité de cette relance d'RBA et l'heure du sport.
Merci à tous, on est ravis d'avoir retrouvé tous les auditeurs de l'autre côté du micro, c'est un vrai plaisir.
Et l'heure de vous mettre au sport, ciao.
Musique, complètement région, RBA FM, Auvergne-Limousin, la radio 100% région.